RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h06, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport dominical. On est ensemble, évidemment, en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau et Marion Bartoli. Elles ont accueilli des guests, comme on dit, prestigieux depuis le début de l'émission. Jérôme Coppel, Christophe Cessieux, de 9h à 10h, pour se demander si le Tour de France 2022 resterait dans l'histoire et pour nous donner leur héros de cette édition 2022. Jean-Luc Roy, pour faire une belle heure sport mécanique, sport auto. On s'est projeté sur l'avenir du sport automobile français, l'avenir du Grand Prix de France, l'avenir de nos pépites du pilotage français. C'est Cyril Guimard et Arnaud Souk qui vont leur succéder. Vous l'avez compris, on retourne sur la route du Tour. La route du Tour, elle est pas loin aujourd'hui. Hein. Boucle, la grande boucle, arrivée sur les Champs-Élysées. Ils vont passer effectivement devant le campus Altice et donc les studios de RMC. Dans un instant, on va faire le bilan des coureurs tricolores lors de ce Tour 2022. Une édition où Impossible a failli être français.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Pogacar qui va s'imposer.
Van Aert
qui s'impose ici.
C'est pas la nationalité qui fait qu'on est bon ou mauvais.
Pour gagner une étape sur le Tour de France maintenant, c'est tellement dur. Et on voit même au sein des équipes françaises, on a des Storer, on a des Kung, on a des Geniettes qui n'ont pas la nationalité française. Et du coup, le pourcentage de français dans le peloton, il diminue tous les ans, je dirais.
Bah, je suis même pas français, je suis américain.
Non, t'es français, moi je suis américain.
Forcément, le pourcentage de chances de victoire d'un Français, il diminue. Ça ne veut pas dire que les Français ne sont pas capables, ça veut dire que la concurrence est beaucoup plus forte et pour l'instant, on se contente des places d'honneur.
Thibaut Pinot sera récompensé quand même et sera sur le podium puisqu'il vient d'avoir le prix de la combativité.
Ce n'est pas une défaite. Nous reviendrons.
300 mètres en parcourir pour Christophe Laporte et derrière, chacun donne ce qu'il a mais ça va être compliqué de le rattraper. Christophe Laporte, il est seul au monde, la victoire.
Victoire d'État française, on l'attendait plus, elle est là pour Christophe Laporte, magnifique.
C'est bien qu'il y ait une victoire française aujourd'hui, ça évitera que les gens parlent un peu trop. Dans les équipes françaises, on sait faire et il faut juste être patient et continuer à travailler et à y croire.
J'y crois.
Marie Martineau, oui.
On est vivant tant qu'on est fort. Allez, ça suffit.
Non, mais c'est bien, on aime bien quand tu reprends un petit peu les magnifiques morceaux de variété qui concluent les productions maison RMC. On remercie Sébastien Dupré, notre réalisateur, qui perpétue lui aussi le savoir-faire inégalable de RMC en la matière. C'est vrai qu'on l'entendait dans l'émotion de Christophe Cessy au commentaire de l'Intégral Tour. On a eu chaud, on a bien cru que pour la première fois depuis 1999, aucun Français ne lèverait les bras à l'arrivée d'une étape. Christophe Laporte a donc, vous venez de l'entendre, finalement sauvé l'honneur. Mais est-ce que ça suffit à sauver un bilan français pas forcément folichon, à moins de considérer que le beau tir groupé des Français dans le top 15 soit porteur d'espoir pour le futur? On va en parler tous ensemble. Pas concerné par la victoire au général, trop loin du podium, rarement en mesure de remporter une étape, on est quand même obligé de vous ressortir la musique qui fout les jetons en vous posant cette question, les GG. Est-ce que oui ou non, le cyclisme français est en crise, Marie Martineau?
Non, le cyclisme français n'est pas en crise.
Marion Bartoli?
Non.
Non pour Marion Bartoli. Alors, vous n'allez pas faire ce débat toutes les deux, je l'ai promis, les auditeurs. On est ravis d'accueillir Arnaud Souk et Cyril Guimard dans les grandes gueules du sport spécial Tour de France. Salut Arnaud, salut Cyril.
Salut les amis.
Bonjour, salut à tous.
Alors messieurs, même question, est-ce que le cyclisme français est en crise, Arnaud Souk?
Non.
Non pour Arnaud. Cyril Guimard?
Ah, c'est bien Arnaud.
Donc vous allez être trop
compliqué
contre moi, c'est ça?
Ça va être dur, allez accroche-toi.
Ils en ont l'eau à la bouche là, ils attachent la serviette autour du cou.
Non, il n'est pas en crise, il est à son niveau. Depuis d'ailleurs quelques années, on ne peut pas jouer dans la cour des grands, des très grands, à l'exception de Julien Alaphilippe et de quelques exceptions dans quelques courses. Mais
alors justement, Cyril, avant justement d'élargir voilà à ce débat sur l'état actuel du cyclisme français, pour rester sur cette édition du Tour 2022, pour toi, ce Tour, il est raté par les coureurs français?
Non, il n'est pas totalement raté, car il y a quand même des accessites que les Français sont allés chercher. Mais je voudrais revenir sur un argument qu'on a entendu tout à l'heure dans les interviews que vous avez passées, en disant il y a moins de Français, c'est pour ça que... Ou il y a des étrangers dans les équipes françaises, c'est pour cela que... Je voudrais quand même vous donner quelques chiffres, parce que... On peut évoquer effectivement le problème du cyclisme français, mais on va le dépassionner, si vous voulez, ou retirer toute la part d'émotion ou du côté fan et parler de vrais chiffres. Il y avait 32 Français au départ de ce Tour de France, seulement 18 Belges, 14 Italiens, 10 Danois, 10 Néerlandais, etc. Donc il y a pratiquement plus de la moitié de Français par rapport aux nations qui, elles, au lieu d'avoir 60 millions d'habitants, n'en ont que 11 millions, voire 5 millions. Et puis on se rend compte que, par exemple, la Belgique, elle a quand même que 5 victoires sur ce Tour de France, plus un maillot vert, c'est-à-dire un quart des victoires. Si vous prenez le Danemark, ils ont 3 victoires et classement général, mais ils ne sont que 5 millions d'habitants. Les Néerlandais, ils ont déjà quelques victoires, déjà au sprint, ils sont que 5 millions. Le Luxembourg, ils ont une victoire. Le Canada, ils font une fois 1 et 2. Donc, si on regarde tout ça, et nous, on a une victoire, et je dois dire que cette victoire, si Laporte n'avait pas été dans l'équipe Jumbo, il n'aurait pas rencontré cette victoire.
Ah oui, mais avec des si, on met Paris en bouteille.
Ouais, non, c'est pas des si, c'est une réalité.
Cyril.
Il faut. Non, mais
tant mieux pour lui, s'il est dans une bonne équipe.
Cyril, oui,
les chiffres parlent. Et s'il était resté chez Cofidis, à mon avis, il n'aurait pas eu de victoire.
Oui, mais ça, on ne pourra jamais le savoir. Si on mettrait pas un bouteille.
Mais si, on le sait.
Et Cyril, tu nous parles des Pays-Bas, tu nous parles de la Belgique, tu nous parles de plein de pays. Alors, je mets le Danemark à part, évidemment, parce que Jonas Vingegaard va s'imposer dans ce Tour de France. Mais ils sont où, les Belges et les Néerlandais, au classement général? Où est-ce qu'ils sont? Dylan Teuns, 19e. Pour moi, le signe de la santé du cyclisme, c'est quand même d'avoir des coureurs et des coureurs d'avenir qui aient joué le classement général. Et je parle notamment de David Godu, qui va terminer 4e.
David Godu, c'est tout à l'heure 4 coureurs français dans le top 15.
Et 4 coureurs français dans le top 15. Alors bon, les 4 sont pas forcément des coureurs d'avenir. On va dire que Romain Bardet et Thibaut Pinot ont la majorité de leur carrière a priori plutôt derrière eux. Mais je suis désolé, David Godu, lui, il a sa carrière devant lui. C'est quand même son 3e Tour de France. Il fait encore une très belle performance. Il termine 4e. Il ne cesse de monter en puissance. On a vu que c'était un acteur aujourd'hui majeur du peloton du Tour de France. Alors certes, il a des grosses lacunes en contre-la-montre. Certes, il a connu des défaillances, Cyril. Mais je suis désolé. Le signe, l'état de santé du cyclisme, il est aussi signifié par ta capacité à jouer un classement général sur 3 semaines.
Oui, mais moi je veux bien que vous me sortiez ces arguments-là, mais attendez. Godu, est-ce que vous avez vu les Français, dans les phases finales d'étape, influer sur la course? Est-ce que vous avez vu les Français être dans les 3-4 premiers dans les arrivées?
Je pense que c'est Romain Bardet. Je pense que c'est
Arnaud, je t'ai pas coupé, s'il te plaît. Bon.
La Dream Team Vélo RMC, qui a l'habitude de s'engueuler.
Toutes les arrivées où le classement s'est fait, il n'y avait pas de fin. Si vous prenez, et je l'aime bien, donc vous avez pas, je ne suis pas là pour lui faire un procès, mais Godu, il a toujours été en retrait, il a fait des beaux finales pour venir le plus près possible des meilleurs coureurs. Il n'a jamais, Godu n'a jamais attaqué une seule fois sur ce tour.
Oui, mais il le dit lui-même, moment. Cyril, qu'est-ce que t'en penses? Il le dit lui-même, genre, qu'il s'est surpris à être peut-être plus en forme qu'il n'aurait cru, avoir plus de capacités qu'il n'aurait cru, et finalement, peut-être ce tour a quand même allumé une étincelle chez lui, non? Tu t'es pas d'accord avec ça?
Non, mais l'étincelle, on la connaît depuis le Tour de l'Avenir, quand il l'a remporté. Aujourd'hui, il est à son niveau. Il perd 3 minutes 10 contre la montre. C'est-à-dire que si vous ajoutez tout ça, vous pouvez pas dire que demain, Godu est capable de gagner le Tour de France. Ce n'est pas vrai.
Non, mais c'est pas ce qu'on est en train de dire, Cyril. On est simplement en train de dire qu'aujourd'hui, on peut pas considérer que le cyclisme français est en crise parce que notamment parce qu'il y a un garçon qui termine 4e. Et je suis désolé, mais tu dis David Godu, il a jamais attaqué, on l'a jamais vu influer sur la course. Dans le col du Granon, si ma mémoire est bonne, enfin, les Français, tu parlais des Français
c'est
de manière
lui,
plus générale.
C'est lui qui a rattrapé Pogacar.
Et c'est surtout Romain Bardet qui a mis en exergue la faiblesse de Pogacar ce jour-là, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc les Français, tu peux pas dire qu'ils ont
ouais, mais
pas,
vous oubliez,
qu'ils n'ont pas influé.
Arnaud, oui, on est ensemble toute la journée. T'as oublié que si Godu est capable de venir dans le gradon, c'est quand même grâce à Wout van Aert qui a attendu Roglic pour ramener Roglic et qui a ramené David.
Oui, mais il a saisi son opportunité.
Mais, attendez, si van Aert n'est pas là, il ne rentre jamais avant le pied du gradon. Mais non, mais faut regarder les choses telles qu'elles sont. S'il n'y a pas Van Aert, il rentre jamais.
Il a saisi son opportunité. Écoute, ça fait partie des.
Non, c'est parce qu'il y a eu de la stratégie.
Non, mais tu nous parles des 10 meilleurs étrangers, mais est-ce qu'on avait vraiment les 10 meilleurs français sur ce tour? Si on doit faire l'analyse de le cyclisme français est-il en crise, on ne peut pas faire sans le fait qu'il en manque un paquet au départ, quand même.
Il n'en manquait qu'un.
Non, mais toi, tu jures que par Alaphilippe.
Il en manquait qu'un, voire deux, quand même, avec
Alaphilippe. On va aller chercher des grosses places.
Alors, attendez, sortez-moi quelqu'un d'autre qu'Alaphilippe qui n'est pas au départ du tour.
Démarre, Guillaume Martin.
Non, mais démarre, c'est un sprinter, on parle du général.
Brian Coca.
Alors, oui, non, c'est mais c'est sprinter, intéressant, Cyril. Est-ce qu'on n'est pas devenu un peu exigeant? C'est-à-dire qu'un cyclisme français qui ne serait pas en crise, ce serait quoi? Ce serait un Français qui est capable de remporter le Tour de France? On n'a pas vu ça depuis Bernard Hinault, sauf erreur de ma part, Cyril.
Oui, mais c'est donc on peut considérer qu'on est en crise depuis Bernard.
Ça fait 40 ans qu'on est en crise.
Ça fait 40 ans qu'on est en crise.
D'accord, mais effectivement.
Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, et là, moi, j'essaye d'être. Attendez, moi, je réagis comme si j'étais directeur sportif, et si je fais le bilan des coureurs français, je le fais de l'intérieur en étant directeur sportif avec les éléments qui permettent de. Bon, aujourd'hui, est-ce que vous avez vu un Français dans une phase finale d'une étape de montagne être capable d'être avec les meilleurs, d'attaquer, de passer? Je suis désolé, non.
Non, mais est-ce que tu as vu
Vous pouvez pas dire que
Vingegaard et Pogacar.
Non, mais vous ne pouvez pas dire que les coureurs qui sont là aujourd'hui, l'année prochaine, vont faire péter Pogacar, vont faire péter Vingegaard, vont faire, tant qu'Aaron Thomas, il a 36 ans, qui vont faire péter, d'autant que Egan Bernal sera arrivé, il y en a pas un à la pédale qui est capable de. Et en plus, contre la montre, on perd 45 secondes minimum par tranche de 10 km. Mais il faut être objectif.
Oui,
quoi.
Mais si tu veux être objectif, sois-le jusqu'au bout, Geraint Thomas. Où est-ce que tu l'as vu attaquer? Où est-ce que tu l'as vu renverser le tour, Geraint Thomas, par exemple?
Non, mais il suivait au moins les meilleurs.
Il suivait, je pense que David Godu.
Alors que nous, on était à 2 minutes.
T'as 5 minutes d'écart au classement général entre Geraint Thomas et David Godu. Mais tu sais très bien d'où elles viennent en majorité, ces 5 minutes. Enfin, c'est pas 5 minutes d'ailleurs, c'est un tout petit peu plus. Mais tu sais très bien d'où elles viennent, Cyril, ces 5 minutes-là. Bon, ça vient du chrono essentiellement. Alors, si on doit être un petit peu, on peut prolonger un peu le débat, dire que David Godu aujourd'hui n'est pas capable de gagner le tour parce que, notamment, il a pas les capacités en contre-la-montre qui lui permettrait de lutter avec les tout meilleurs. Là, oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais tu peux pas dire aujourd'hui. Mais non, mais il y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord ici. Il y a pas de problème. Il suffit juste d'enlever nos œillères. Il y a aucun problème. Mais par contre, tu peux pas dire que David Godu aujourd'hui a pas été l'un des influents sur cette course en terminant quatrième du classement général. Ça a été l'un des gars qu'on a le plus vu en montagne. Derrière, certes, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, mais en même temps, il y a eu eux et il y a eu les autres.
Alors, moi, Arnaud, moi, je veux bien. Dis-moi où t'as vu à un moment David Godu passer à l'attaque dans un col et mettre à la rupture les coureurs qui le précédaient.
Je pense que c'est pas le jeu.
Un autre coureur qui était capable de faire ça. Voilà.
Lequel?
Mais cite-moi un autre coureur qui était capable de mettre à la rupture Vingegaard et Pogacar.
Ouais, tu vois, c'est qu'on a deux monstres.
Donc c'est quand même un moment que David Godu, il est pas si loin du compte et que certes on a ces monstres là, mais que dans le reste, on va dire le reste du monde, on a quand même un coureur et notamment David Godu qui est capable de faire des bonnes choses.
Cyril et Arnaud, effectivement, on va vous rester évidemment avec nous pour ce débat, mais effectivement les deux spécialistes de cyclisme que vous êtes, et face un petit peu unis, peut-être un petit peu Barry et Marion qui ont des arguments à faire valoir. Je me permets quand même juste de rétorquer à Cyril que si David Godu avait été en mesure d'influer sur la fin des étapes, notamment de montagne, on n'en serait pas à se demander si le cyclisme français est en crise, mais au contraire, on parlerait de
cyclisme
français en pleine réussite. Marie, toi, pour toi, évidemment, non, c'est une réussite le cyclisme français, ce Tour de France.
Tu vois, quand on travaille l'émission la veille et tout, le cyclisme français est-il en crise? J'avais juste écrit non, mais parce que moi, c'est pas une question que je me pose. Alors j'ai élargi un petit peu plus large que le Tour de France. On a quand même un Madouas qui fait 3 du Tour des Flandres. On a un Bardet qui était juste méga en forme sur le Giro et qui était quand même parti pour faire quelque chose d'assez incroyable s'il avait pas eu des problèmes de ventre. Le panel est un peu plus large et que juste ce Tour qui en plus n'était pas spécialement préparé par nos Français comme s'il n'y avait que le Tour, quoi. Donc Bon, le fait qu'il manque Alaf, mais Alaf, il est là, je veux dire. Enfin, il n'est pas sur le tour, mais on connaît très bien ses capacités.
Il a gagné hier au mur de oui, autour de...
Mur de oui. Donc, tu vois, je crois que si on élargit un peu, on ne peut pas du tout dire... l'athlétisme français est en crise, ça c'est clair. Le cyclisme français n'est pas en crise, quoi.
Marion Bartoli, on t'a pas encore entendu sur cette question.
Non, mais totalement. Moi, ce que je trouve, c'est que pour Gaudu de finir quatrième, enfin, aller éventuellement chercher la troisième place, peut-être, ça aurait été le graal maximal, mais on peut pas lui reprocher d'être quatrième. Aujourd'hui, c'est un immense tour qu'il a fait. Enfin, je veux dire, il est arrivé à distancer des coureurs comme Quintana, comme Yates, comme Vlaslov. Lui dire qu'il a fait un mauvais tour et que le cycliste français est en crise, je trouve ça un peu fort de café. Très sincèrement, il a été dans tous les bons coups. Il s'est accroché à la roue. Alors oui, certes, il a pas été en haut d'école en train de dépasser Vingegaard et Pogacar, mais qui a été capable de le faire? Quasiment personne. Christophe Laporte, ça a été le coéquipier modèle de Van Aert et de Vingegaard dans la Jumbo-Visma. Je pense qu'avec cette équipe-là aussi, qui a une telle organisation, encore une fois, grâce à tous ces sujets sur le cyclisme, j'ai beaucoup étudié cette équipe. Ça m'a vraiment impressionné le niveau de professionnalisme poussé jusqu'à l'extrême, et je pense que ça va le faire grandir. Et justement, pourquoi pas l'année prochaine ou sur les années qui arrivent, encore plus développer ses capacités. Bardet, c'est la sixième fois qu'il finit dans le top 10 d'un Tour de France en 9 participations. De dire qu'avec ça, on a un cycliste français en crise, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit et qu'on est les derniers, la dernière roue du carrosse. Je trouve ça vraiment pas du tout justifié et un faux procès qu'on leur fait. Donc, par rapport aux arguments développés, je vais pas en développer forcément beaucoup plus parce que tout a été dit. Mais moi, ce qui me permet de juger si un sport est en crise, c'est la capacité qu'on a à placer des coureurs ou des athlètes.
Alors oui,
et
mais
aujourd'hui, on en a deux dans le top 10. Romain, il est septième. David, il est quatrième. Tu vois, il y a deux monstres devant, qui est deux extraterrestres qui sont quasiment intouchables. Ok, d'accord, ça enlève deux places. Mais le reste, on s'est très bien défendu. Alors oui, peut-être qu'il aurait pu y avoir un tout petit peu plus de victoires d'étape. Mais écoute, franchement, je pense qu'on a tous vibré pendant ce tour. On a vu l'engouement populaire derrière les Français. Je pense pas qu'on soit en train de se dire, comme le disait Marie, oui, l'athlète français est en crise. Ça, tu peux le dire. Quand tu vois les résultats du championnat du monde, là, oui, tu peux le dire. Mais je suis vraiment pas d'accord sur le cyclisme. Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord autour de cette table.
Oui, mais grande gueule, je vous rappelle que Cyril Guimard a été coureur et puis surtout directeur sportif de coureurs qui ont remporté le tour. Donc, pour lui, un coureur oui. français
on
qui
respecte
remporté
l'argument de Cyril.
C'était la routine.
Soucis, hein.
Il y avait 10 nationalités dans le vélo et encore. Faut pas comparer deux époques. Je veux dire, dans les années 80, enfin, c'est pas Cyril qui va me contredire. Il y avait pas un nombre de nationalités incroyable.
T'es très bon, Arnaud.
Bon, tu vois. Je vais même te brosser dans le sens du poil, Cyril, parce que je pense, par exemple, puisque Marie en parlait de Valentin Madouas, je pense que c'est un coureur qui a même souffert, je mets des gros guillemets, mais souffert de devoir être le coéquipier, par exemple, cette année de David Gaudu. Sans ça, je peux volontiers imaginer que Valentin Madouas aurait joué des gaines d'étape. Voilà. Et on aurait peut-être même obtenu plusieurs.
Ça, il avait
ça
les
aussi,
jambes, hein.
C'est un cycliste d'avenir. Ça aussi, c'est un cycliste qui fait une excellente saison. Il a le même âge à peu près que David Gaudu à quelques mois près. Lui aussi, c'est un garçon qu'il va falloir regarder dans l'avenir. On espère qu'il arrivera à en claquer une belle, qu'il arrivera à en claquer une grosse. Mais là, il a été un peu bridé par le fait de devoir aider David Gaudu. Le seul jour où il a eu sa carte, il a terminé deuxième de l'étape. Et je peux vous dire, c'était une étape qui était, c'était pas une étape de Mickey, hein, là où il termine deuxième.
Et tu parles d'avenir, et donc si on doit faire le bilan du cyclisme français, on est obligé de se tourner vers les petits jeunes qui vont arriver et qui feront l'avenir, et on serait en crise si on n'en avait pas, mais on en a deux, et je vais me faire le plaisir de les citer. Il s'agit de Romain Grégoire et Lenny Martinez, qui sont quand même juste des pépites, et on a hâte de voir ce que ça va donner quand ils seront chez les grands.
Et on les avait vus notamment sur le Tour des Alpes, excellents dans les grandes étapes.
Alors, puisque vous parlez des jeunes, je vais rebondir un petit Cyril. Peu sur le sujet. Déjà, j'ai pas dit que le cyclisme était en crise, j'ai dit qu'il était à sa place.
Parce ah oui, il a dit à sa place, t'as nuancé, c'est vrai.
Le cyclisme n'est pas en crise en 8 jours. Ça veut dire que on a une évolution de notre cycliste qui fait que aujourd'hui on est à notre loi. Puisque vous parlez des jeunes, là vous parlez de deux jeunes qui sont encore dans les catégories jeunes et qui ont véritablement du talent. Mais sur le Tour de France, vous saviez combien on avait de jeunes? Deux. Ils sont 13e à 3h28 et 14e à 3h56.
Tu parles du classement du meilleur jeune là, c'est ça?
Oui, mais ça les met dans le classement du meilleur jeune à 3h28 oui, et 3h36 alors, du meilleur jeune.
Ne prends pas cet argument alors que tu trouves que ce classement
c'est malin. Dans l'argumentaire, c'est malin.
on a que deux jeunes.
Mais ça veut dire quoi, deux jeunes, Cyril? Oui, d'accord.
Non, mais on a que deux jeunes qui sont
Mathieu,
dans le classement
on
des
parle
jeunes.
De Mathieu Burgodeau, 13e, et Mathis Louvel, 14e. Effectivement, 3h28 et 3h36.
3h28, 3h36. Si vous pensez que c'est les coureurs de demain, je ne sais pas, moi.
Cyril, ce classement, tu sais très bien que c'est une frontière. On dit que ce sont les coureurs de moins de 25 ans. Voilà, on a décrété.
Oui.
Même toi, tu trouves ça complètement idiot et tu nous sors cet argument du classement des coureurs de 25 ans. Aujourd'hui, on a David Godu et Valentin Madouas qui justement ont à peu près cet âge-là, tu peux pas dire que c'est pas des coureurs d'avenir parce qu'ils ont plus de 25 ans et qu'ils peuvent pas rentrer dans le classement du meilleur jeune, qui est un classement idiot.
En plus, tu le sais, puisque à plusieurs reprises,
le meilleur jeune a gagné aussi le Tour de France.
Bon, c'est-à-dire que tous les arguments chiffrés, vous en avez rien à faire.
Non, mais tu prends deux exemples, c'est pas des grimpeurs, donc forcément ils prennent des tollés sur Général, tu vois. Caleb Ewan, il a pris des tollés au Général
c'est
aussi, tu vois.
Ouais.
Qu'est-ce que j'aime cette émission.
Et nous, qu'est-ce qu'on aime notre équipe de la Dream Team Vélo, qu'est-ce qu'on a vibré lors de ce Tour de France 2022 Cyril Guibard, Arnaud Souk, Christophe Sessieux, Pierre-Yves Leroux, Jérôme Coppel.
Ah oui, un régal.
Effectivement, le Tour de France sur la Kevin Morand, j'en oublie, les reportages de Kevin Morand, de Julien Richard, évidemment, Intégral Tour, After Tour. Le tour sur la moto, ça doit être quand même fabuleux, Arnaud.
Le tour sur la moto, c'est il y a plusieurs images incroyables. Il y a Thomas Pidcock dans la montée de l'Alpe d'Huez, il y a Romain Bardet dans la montée du Granon. Voilà, il y a plein de belles choses, on vit plein de belles choses. La montée l'autre jour à Peyragudes, derrière Tadej Pogacar, derrière Jonas Vingegaard et derrière Brandon Magnetti.
Oui,
on vit des instants assez incroyables. Bon, il y a des moments un petit peu moins agréables, hein. Rodez Carcassonne, 42 degrés. Ah, oui. Je vous cache pas que là, il y a eu 2 litres d'eau qui ont été mis sur les bras.
Et tu pédales pas, t'imagines?
Je pédale pas. Mais je prends un peu moins de litres d'eau aussi que les coureurs qui prennent 12 litres dans la journée. Hein.
Tu nous confirmes que la descente à 80 à l'heure dans des cols sur des routes qui font 2,50 m de large, c'est une dinguerie.
Alors, il y a des descentes de cols qui sont particulièrement agréables, notamment celle du col du Galibier, voilà, où il y a beaucoup de visibilité. Il y a des descentes qui sont beaucoup moins agréables. J'adore ce col, mais la Orquette dans 6 ans, franchement, je conseille la descente à personne en moto. Derrière des coureurs du Tour de France. Et puis alors,
ils
encore pire,
fous, hein.
Le col de Spandel, là je peux vous dire que j'ai eu quelques petites frayeurs.
Ah, je veux bien te croire.
Et même si on se régale lorsqu'on est amoureux de vélo comme toi, c'est toujours en prendre une certaine émotion qu'on voit Paris se décider à l'horizon après 3 semaines de course.
Moi, j'ai toujours entendu parler du blues du Tour de France, mais pour moi, c'est un truc qui n'existe que dans les livres. Ça. On est très, très content quand le tour se termine aussi.
On n'est pas mécontent, en effet, pour l'avoir couvert.
Tu repars pas derrière les filles, là.
Paris. Non.
Okay. La Dream Team, Vélo RMC, que vous retrouverez une nouvelle fois cet après-midi, l'arrivée sur les Champs-Élysées, évidemment, Intégral Tour, un dernier After Tour. Et puis la Dream Team Vélo RMC, que vous retrouvez chaque semaine en podcast, Grand Plateau. Évidemment, votre rendez-vous vélo chaque semaine sur l'application RMC. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup.
Salut,
Cyril.
Salut.
Merci beaucoup pour ces 3 semaines de course et merci d'avoir fait ce petit détour par ces grandes gueules du sport dominical. Les grandes gueules du sport reviennent dans un instant pour la dernière ligne droite. On va partir en Angleterre, on va retrouver Anthony Resch et on va parler ballon rond parce que les filles des Bleus, ça y est, se sont qualifiées pour une demi-finale de l'Euro de football féminin. Ça nous était jamais arrivé. Le dernier carré d'une grande compétition, c'était il y a 10 ans aux Jeux de Londres en 2012. On en parle dans un instant et c'est un acte fondateur pour les Bleus de Corinne Diacre. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h34, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport dominical. On est ensemble en direct jusqu'à midi en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, Marion Bartoli et d'une pléthore de consultants et d'invités issus de nos Dream Team respectives, la Dream Team Vélo pour les bilans Tour de France, la Dream Team Sport Auto avec Jean-Luc Croix qui nous a accompagnés de 10h à 11h. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les deux premières heures de l'émission en podcast. Bon, vous attendez midi, la fin de l'émission, et puis vous irez picorer ça quand bon vous semble dans un quart d'heure. C'est à vous, les auditeurs, d'entrer en piste. Hein. Vous avez entendu au cours de l'émission quelque chose qui vous a fait recracher le café. Vous venez vous bastonner avec la GG qui vous a agacé. Les GG et vous, ce lien entre les auditeurs et nos consultants, c'est l'une des promesses de RMC, vous le savez. Mais avant ça, on va parler ballon. Qu'est-ce que je vous sers, au fait? Allez, une demi.
la pression du public, la pression du stade de Rotherham, avec F. Périssé pour frapper le pénalty. F. Périssé qui a la possibilité déjà de donner l'avantage à l'équipe de France dans ce quart de finale. Le coup de sifflet, la cour des larmes. Parti du bon côté, Van Domselaar, j'ai cru qu'elle allait encore nous refaire l'histoire. Elle a touché le ballon du bout des gants. Elle périssait pour l'instant, envoie l'équipe de France en demi-finale.
Il patientera donc un petit peu avant de partir en vacances. Hein. Jeannot Rességuier au top de sa forme hein, sur le but de Périssé qui envoie effectivement les Bleus en demi-finale de l'Euro. C'était hier soir sur RMC. Jannot Rességuier, Anthony Reich, vous faisiez vivre cette qualification historique des Bleus. Jamais une équipe de France féminine n'avait atteint les demi-finales d'un Euro de football. Les joueuses de Corinne Diacre affronteront l'Allemagne mercredi prochain pour une place en finale. Surveillée, critiquée, fragilisée, la sélectionneuse des Bleus. Corinne Diacre a donc réussi son pari avec une équipe qui porte sa marque, sa patte. Alors, cette question pour vous, les GG, est-ce qu'on peut parler d'un acte fondateur hier soir ? Marion Bartoli ?
Oui.
Oui pour Marion. Marie Martineau ?
Moi, je sais pas trop ce que c'est un acte fondateur. T'en as déjà vécu un, toi, d'acte fondateur ?
Moi, je... Oui, oui. Tout à fait. Lorsque Pierre Amiche et Jean-Christophe Drouet m'ont fait rentrer dans les GG, par exemple.
Oh, wow, ok. Alors, sans savoir ce que c'est difficile de répondre à la question, j'ai envie de te dire, c'était un grand match, c'était un match important, c'était au rendez-vous. Oui, si ça veut dire ça, être un acte fondateur.
D'accord, donc deux oui, bah, écoute, tu nous lanceras.
Oui, puis,
hein, effectivement,
exactement.
Si les arguments de Marion ne te convainquent pas tous, hein, effectivement, vous n'hésitez pas à vous engueuler, hein, c'est le principe. Avant de vous laisser justement faire ce débat, ou avoir cet échange, on accueille avec un immense plaisir Anthony Reich. Salut Anthony et bravo!
Salut les amis, bonjour à tous. J'y suis pas pour grand chose, moi.
Un porte-bonheur, arrête un petit peu, Anthony. Tu es un porte-bonheur de cette équipe de France.
Enfin, parce que j'en ai vécu quelques-unes avant.
Effectivement, tu as mangé ton pain noir avec les Bleus. On imagine, Anthony, forcément, hein, c'est une évidence, oui. Beaucoup de soulagement chez les joueuses de Corinne Diacre.
Ouais, 10 ans que l'équipe de France attendait cette qualification pour une demi-finale internationale. La dernière fois, souvenez-vous, c'était lors des Jeux Olympiques de Londres, il y a déjà si longtemps que ça, sous l'ère Bruno Bini. Alors, évidemment, dans le vestiaire après la rencontre hier soir, c'était la folie et la libération. Une explosion de joie à la hauteur de la performance des Bleus face aux tenantes du titre néerlandaises. Un match maîtrisé pour la première demi-finale européenne de leur histoire qui fait le bonheur de Corinne Diacre, la sélectionneur.
Satisfaite, surtout que la victoire a été longue à se dessiner. Il nous a fallu les prolongations pour y arriver et en plus un pénalty. On est tombé sur une gardienne en état de grâce ce soir. C'était difficile, mais les joueuses n'ont rien lâché. Et je pense qu'il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'elles n'ont jamais abdiqué. Ça, c'est costaud.
Pour la buteuse, F. Périssé, la performance des Bleus sera décisive pour la suite de la compétition.
Non, on n'a pas douté, parce que comme je l'ai dit, on a quand même une belle prestation, que ce soit du début jusqu'à la fin du match. Après, c'est vrai qu'on aurait pu être un peu plus efficace, mais voilà, il y avait quand même une belle gardienne. Je trouve qu'on a été très forte mentalement ce soir, et il va falloir s'appuyer là-dessus pour les demi et j'espère la finale. Oui, je pense qu'on va falloir qu'on s'appuie là-dessus, parce que en face, c'était quand même les Pays-Bas, une très belle nation, et on a bien dominé, on a montré du beau jeu, des bonnes phases. Il manquait juste le but, pour se mettre plutôt à l'abri.
Les joueuses de l'équipe de France vont devoir très vite basculer sur leur demi-finale face à l'Allemagne. Mercredi, l'épouvantail de la compétition pour continuer d'écrire leur histoire.
Et évidemment, on suivra ça sur RMC avec toi et Jean Rességuier aux commentaires. Anthony, tu restes évidemment avec nous parce qu'on a besoin de ton œil. Hein. Effectivement, toi qui as suivi cette équipe de France féminine, alors bien avant cet Euro, mais qui les suit depuis leur entrée en lice face à l'Italie. On parlait d'acte fondateur. Alors, Marie, toi, tu me disais un acte fondateur. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. En revanche, bon, ce match, il doit servir à au moins à donner de la confiance. Voilà ce qu'on peut entendre par acte fondateur. Une sorte de repère qui va donner des certitudes à la fois à Corinne Diacre et à la fois son groupe.
Bah, je pense qu'on l'a vu à la libération de ces filles-là après les prolongations et l'engouement que ça a suscité. Je crois qu'elles attendaient d'elles-mêmes vraiment de passer un palier. Alors c'est peut-être ça l'acte fondateur, c'est d'avoir passé ce palier, de rentrer en demi. Moi je suis ravie parce que je les ai vues jouer sans Katoto, qu'on annonçait comme quelque chose qui allait être difficile à surmonter. Finalement j'ai vu un jeu qui s'est parfaitement déroulé hier. Je les ai trouvées dans le respect du foot. J'ai eu des belles actions, de la puissance, j'ai eu des frappes où je me suis dit non mais franchement quoi, des superbes frappes.
31 tirs hein, pour les Bleus.
Les stats sont dingues.
C'est pas comme si, voilà, c'était un match à sens unique et qui n'est absolument pas, je passe sous le contrôle d'Anthony, hein, mais la domination des Bleus n'est absolument pas reflétée dans les...
Des sauvetages sur la ligne, un poteau, une gardienne de ouf en face, enfin, et pourtant elles n'ont rien lâché. C'est 13 tirs cadrés quand même pour les Françaises contre 1 pour les Pays-Bas. Voilà, 10 corners, enfin, il y a eu du jeu, quoi. C'était chouette, même si la deuxième mi-temps est un peu plus compliquée, enfin, c'était un peu plus long et à regarder, mais voilà, je reste sur un beau match de foot. Alors, voilà, je pense que les Françaises seront régalées hier soir, ont passé un bon samedi soir et les buvettes des campings alentours ont dû tourner plein badin grâce aux prolongations. Donc, super.
Marion, c'est le match. Le scénario à un niveau de compétition que ce groupe de Corinne Diacre attendait pour espérer remporter enfin un trophée.
Oui, absolument, Simon. Mais moi, je parle d'acte fondateur parce que quand on voit effectivement le déroulement de ce match, en fait, en termes de possession de balles, les deux équipes sont à 50-50, sont à 50% chacune. Sauf que, comme l'a dit Marie, effectivement, il y a eu beaucoup plus de tirs et beaucoup plus d'occasions de la part de la France parce qu'elles ont exploité un système de jeu et une tactique qui était extrêmement bien huilée. Elles ont pu exploiter les couloirs, elles ont fait des redoublements de passes, elles ont eu des courses beaucoup plus tranchantes que les Hollandaises et notamment grâce à Gayoro qui en milieu de terrain pour moi est vraiment une réelle révélation de cet Euro et continue d'impressionner. Elles ont neutralisé Miedema qui était de loin normalement la buteuse la meilleure buteuse et en tout cas de cette équipe là. Alors même si elle revient du Covid, elles ont su parfaitement la neutraliser et elles ont finalement totalement dominé cette rencontre par leur empreinte tactique et par ses tirs au but. Alors effectivement, en face d'elles, elles avaient une gardienne qui était en état de grâce et qui a tout arrêté. Elles auraient dû plus largement mener au score. Mais malgré tout, sur le plan mental, malgré le fait qu'elles n'aient pas été capables auparavant de franchir ce stade des quarts de finale, elles se sont jamais relâchées, elles sont jamais frustrées, elles ont continué. Et quand on voit l'explosion de joie à la fin, ça fait vraiment plaisir à voir. Et c'est pour ça que je parle d'acte fondateur, parce que lorsqu'on a un obstacle comme ça à franchir et qu'on a tellement échoué de fois à un niveau de la compétition et qu'on n'arrive pas alors qu'on a tant d'occasions à marquer, ça peut entraîner énormément de frustration, ce qu'elles n'ont pas ressenti hier. Elles ont continué avec beaucoup d'acharnement à trouver la solution. Maintenant, en demi-finale contre l'Allemagne, ça va être encore une fois une autre paire de manches parce que les Allemandes, elles, si elles leur donnent une ou deux petites opportunités, elles vont les saisir. Mais en tout cas, hier, elles nous ont vraiment régalé.
Justement, on va demander à Anthony. Finalement, Anthony, ce scénario, c'est presque encore mieux pour les Bleus que si elles avaient gagné 3-4-0, comme leur domination aurait pu leur permettre de le faire sans la chance et la résistance héroïque des Pays-Bas, parce que face à l'Allemagne, mercredi prochain, ça va être une autre paire de manches, comme on dit dans notre jargon.
Oui, parce que l'Allemagne est l'épouvantail de cette compétition. Les Allemandes sont impressionnantes depuis le début de l'Euro, même si leur quart de finale a été plus dur que prévu face à l'Espagne, où ça s'est décidé plutôt en fin de rencontre. Mais c'est une nation qui n'a pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition, qui a une armada au milieu de terrain et au niveau offensif assez impressionnante. Et à chaque fois qu'il y a un France-Allemagne dans le football féminin, c'est vrai que ce sont toujours des sommets du football européen. Il va falloir monter encore d'un cran le niveau, encore d'un cran l'intensité, et puis surtout, là, il faudra concrétiser les occasions beaucoup plus. On n'aura peut-être pas 23 tirs face aux Allemandes, qui ont un bloc beaucoup plus compact que ce qu'ont montré les Néerlandaises hier soir. C'est l'efficacité qui primera, mais ce qu'il faut vraiment soulever et souligner, c'est cette force mentale qu'a eu ce groupe hier, l'apport aussi de jeunes joueuses très talentueuses, talentueuse. Oui. Selma Bacha, qui est certainement la nouvelle pépite du football féminin français, qui apporte énormément à chaque fois qu'elle entre. Elle est décisive. Et puis, ces joueuses d'expérience qui sont à pleine maturité. La capitaine Wendy Renard, hier, qui fait preuve d'un recul sur la situation, laissant le pénalty.
Cascarino était très forte aussi hier.
Cascarino aussi. Et Diani font partie des meilleures ailières européennes, voire du monde. Et encore, elles peuvent encore progresser. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a énormément de marge de progression.
Mais t'as raison. De laisser le pénalty à Périssa, c'était assez bien surprenant. Nous, on s'est
parce que c'est Wendy Renard qui les frappe. C'est Wendy Renard qui les frappe.
Et au final,
Périssa, la numéro 2. Elle a loupé lors de la phase de poule. Et là, cette fois-ci, l'expérience et la maturité de Wendy Renard, hop, en quelques secondes, un regard, et c'est Périssa qui y va. Donc, ça aussi, c'est un message important. Ça montre aussi que ce collectif part dans le même wagon, vit vraiment quelque chose de fort et d'intense. Elles sont soudées, ces filles-là, et je peux vous dire que elles ont vraiment un seul objectif, c'est d'aller au 31 juillet. C'est une très belle étape hier, ça les a quand même un petit peu libérées, parce qu'évidemment, on leur en parlait, ça fait 10 ans qu'on leur en parle de ce fameux plafond de verre. Là, elles ont vraiment passé un cap, et elles veulent aller plus loin. Et puis, ces jeunes-là, que représentés notamment par Bacha, Matteo, le Mallard également, elles veulent tout casser. Elles veulent tout casser. Elles ont gagné dans les catégories de jeunes et elles veulent aider cette équipe de France. Comme me l'a dit Selma Bacha il y a quelques temps, on veut transformer les larmes de tristesse en larmes de joie et aller au 31 juillet avec la
team. Elles ont appris à gagner. Elles n'ont peur de rien. Et effectivement, elles servent effectivement la cause de cette équipe de France. Peut-être pour certaines joueuses un petit peu traumatisées par les échecs du passé. En tout cas,
j'allais dire, on parle plus de ça. On parle de foot. On parle de leurs actions. Ouais. On parle plus de Corinne Diacre. On parle plus de tout ça. Et ça fait tellement plaisir.
Et en tout cas, le wagon du train bleu, il passera par Milton Keynes mercredi à 21h pour cette demi-finale Allemagne-France. On saura laquelle des deux nations rejoint l'Angleterre et la Suède qui s'affronteront dans la demi-finale, la première demi-finale mardi soir. Énorme succès, on en parlait hier, la passion, les résultats, les liens entre les résultats et la passion. 5 millions de téléspectateurs hier pour les Bleus et quasiment deux fois plus sur RMC, je crois. Elles sont en demi-finale avec Fanon Retégué et Anthony Reich qui vont poursuivre. C'est dans au moins quelques jours de plus pour les vacances et on est certain, on ne doute pas du fait que vous soyez ravis de prolonger un petit peu le plaisir en Angleterre. Merci beaucoup Anthony, on te retrouvera tout à l'heure dans les paris RMC parce qu'on va déjà se projeter sur cette demi-finale avec tous les flambeurs de la bande. On a déjà les cotes pour cette rencontre et puis on se projettera sur les cotes de la victoire finale hein, parce qu'évidemment maintenant hein, on veut rapporter la coupe à la maison hein. On va pas s'arrêter en demi-finale. Merci beaucoup Anthony et à tout à l'heure sur RMC. Allez, Marion Bartoli, Marie Martineau, vous restez avec nous parce que dans un instant c'est aux auditeurs d'entrer en piste. Peut-être que certains ont été choqués, agacés, énervés, veulent préciser, amender ou contrecarrer certains de vos arguments.
On est tout oui.
Voilà, les GG et vous, c'est dans un instant sur RMC pour la dernière ligne droite de ces grandes gueules du sport dominical. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h50, vous êtes bien sûr RMC, c'est la dernière ligne droite de ces grandes gueules du sport dominical en compagnie de Marie Martineau, Marion Bartoli. On a fait le bilan du Tour de France. Restera-t-il dans l'histoire? Le bilan des Français, le cyclisme français est-il en crise? Et puis, on s'est projeté sur l'avenir du sport automobile français. Ce Grand Prix de France est-il en sursis? Est-il fondamental pour le sport auto français? Les pépites du pilotage français ont-elles un avenir au sommet de la Formule 1? Tous ces thèmes ont été développés. Les auditeurs ont écouté vos débats. C'est désormais à eux de jouer avant de leur donner la main. Je vous rappelle que cette émission lance un immense dimanche de sport sur l'antenne de RMC. Dans un instant, les paris RMC. À 13h, l'Intégral Sport avec Benoît Boutron. L'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, avec évidemment toujours ce sprint spectaculaire. Le Grand Prix de France de Formule 1 à 15h sur le circuit Paul Ricard. Et puis, on n'oublie pas le Tour de France Femmes, première édition, qui s'élance en tout début d'après-midi de la Tour Eiffel sur les Champs-Élysées. Tout ça, vous n'en manquerez pas une miette sur RMC. Mais pour l'instant, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
On est très heureux d'accueillir Yann qui a composé le 32-16. Bonjour Yann, bienvenue dans les grandes gueules. Yann, allô.
Salut Yann.
Allô.
Yann.
Oui.
Tu nous entends?
Allô, vous m'entendez?
Ah, On t'entend très bien, Yann. Est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends. Bonjour les DG.
Bonjour et bienvenue dans les grandes gueules. À qui veux-tu t'adresser? Sur quel thème?
À toute l'équipe sur la Formule 1, le Grand Prix du Castellet.
On t'écoute.
Eh ben, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, en fait, sur le fait que le Grand Prix Formule 1 soit essentiel pour l'automobile en France. Parce que pour moi, ce qui est essentiel dans l'automobile en France, c'est pas la Formule 1. C'est les 24 heures du Mans en premier et en deuxième. C'est surtout le rallye, le WRC avec des stars qu'on a aussi en France. Au niveau du WRC, on a un Grand Prix, on a un Grand Prix de rallye en France et aussi Monte Carlo qui est principalement en France. Donc la Formule 1, si elle disparaît, je ne trouve pas ça que ce soit dramatique pour le sport automobile. Si vous voulez que le sport automobile soit majeur en France, il faudrait déjà que Alpine soit en France.
D'accord, il faudrait que Monte Carlo soit en France également, si je peux me permettre, Yann.
Non, mais le Grand Prix de Monte Carlo, il est à Monte Carlo. Mais le WRC, le rallye Monte Carlo, se passe principalement en France. Il n'est pas beaucoup à Monaco.
Okay,
c'est pour
Yann,
ça que je mets le rallye avant.
J'ai l'impression que tu opposes deux choses qui vont complètement de pair. Est-ce que l'intérêt, c'est pas de faire justement que toutes ces courses soient fortes, qu'il n'y ait aucune remise en question de ces courses, qu'elles soient. Alors, parce que pour le coup, je suis d'accord avec toi, on parle rarement du WRC, on a tendance à focaliser sur l'F1, notamment dans les médias, mais je crois que toutes ces courses, le 24 heures du Mans, le Grand Prix, le WRC, tout ça fait que la France doit briller en termes de voitures, de moteurs.
Il y a de la place pour tout le monde. On est un petit peu pris par le temps, donc on remercie Yann.
C'est dommage, on aurait pu en
proposer le 32-16. On refera le débat, mais il faut laisser une petite place à Philippe qui lui aussi a patienté au 32-16, qu'on est ravis d'accueillir dans les GG. Salut Philippe.
Oui, bonjour les grandes gueules du sport.
Salut. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Pas tout à fait d'accord avec notre druide Cyril Guimard sur l'état du cyclisme français. On t'écoute.
Non, mais le druide, il sait de quoi il parle. Pour moi, j'ai trouvé que les Français étaient tout à fait à la hauteur. Le problème, c'est qu'on s'est régalé avec ce Tour de France, mais que c'est une vaste supercherie. Cette équipe Jumbo, ce n'est pas crédible. Vous verrez, messieurs, faites pas semblant de pas le savoir. Dans 2-3 ans, on saura à quoi il marchait. Parce que Monsieur Van Aert, je l'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il peut ne pas gagner, là? Il va gagner aussi cet après-midi aux Champs-Élysées.
Ah, c'est possible, il a gagné l'an dernier.
Il y va pour un champion. Alors,
Vingegaard, il sort. Ouais. De je sais pas trop où, il écrase tout le monde. Voilà. Alors pour moi, le vainqueur du Tour, c'est David Gaudu, parce que les autres devant, je suis désolé, c'est pas de franchouillard, c'est pas crédible. Voilà, Geraint Thomas encore, il a gagné le Tour en 2018. Regardez Bardet, il a fait un excellent Tour de France. Il a mis 1:20 à l'Alpe d'Huez qu'en 2018, et il me dit je suis largué. Voilà,
c'est intéressant ce que tu dis, mais
comment des journalistes peuvent ne pas investiguer là-dessus? Une équipe qui écrase tout le monde. Vous croyez qu'ils pensent quoi dans le peloton, les autres? Vous croyez que ça leur fait plaisir?
Hier, Vingegaard et Van Aert ont été interrogés sur le dopage. Ils ont dit c'est une question de merde. C'est scandaleux de se poser la question. Donc, ils ont remis en cause le travail des journalistes qui faisaient pourtant leur boulot et qui ont fait ce boulot. En tout cas, au classement à la Philippe, hein, David Gaudu a remporté le Tour de France.
Moi, je suis dans la team Philippe.
Le cyclisme français n'est pas tant en crise.
Et moi, c'est une question pour Philippe.
On va vous connecter hors antenne, Marion, parce qu'on n'a plus le temps. Les grandes gueules du sport dominical sont terminées. On remercie Philippe d'avoir composé le 32-16.
Simon, tu me coupes toujours la parole.
Écoutez, on a le mauvais rôle, mais j'ai été bien briefé par Jean-Christophe.
Dimanche, JC revient de vacances.
Oui, écoute, c'est pas pour tout de suite.
JC revient encore une petite
semaine. Je vous remercie en tout cas, mesdames, Marion, Marie, d'avoir été. Et moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission avec vous. Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
Pour cette émission, on se retrouve la semaine prochaine. Dans un instant, les paris RMC.
Oui, à la semaine prochaine.
Salut Marion, salut Marie. Dans un instant, les paris RMC, l'arrivée sur les champs, la demi-finale des Bleus à l'Euro de football féminin. Et puis le tennis, ça joue un petit peu partout en Europe pour les hommes et les dames. À tout de suite sur RMC.
Midi 13h, les paris RMC.